Cette portion de la parole de Dieu est enregistrée et distribuée par l'Église, grâce et vérité. Jésus promet à ses disciples, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Nous prions que vous soyez bénis et rendus libres par notre Seigneur Jésus-Christ au moyen de ce message. Bonne écoute!
Donc, on va regarder dans Hébreux au chapitre 2, verset 1, c'est écrit « Dieu, dans ses derniers jours, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses et c'est par lui aussi qu'il a créé l'univers. Il est ainsi devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom bien plus remarquable encore que le leur. » En tant que Dieu, homme incarné, Jésus s'est fait plus bas que les anges, donc un homme, plus bas que les hommes, le serviteur des hommes. Et après le sacrifice qu'il a fait, il a été élevé, puis il a hérité d'un nom qui est encore plus remarquable que le nom des anges. Et il a hérité de quelque chose. Donc, de quoi est-ce qu'il a hérité? Jésus a hérité de tous ceux qui sont sur la terre et dans les cieux. Il a hérité de ceux qui sont morts avant, de ceux qui sont vivants sur la terre, il a hérité de toute la création. OK? Et donc, Dieu lui donne toutes les nations pour qu'il soit le maître et le seigneur de ces nations-là. Il ne l'était pas avant. C'est après le sacrifice de la croix que le Père lui a donné toutes les nations comme un héritage de sa part. Donc, Jésus-Christ est seigneur de tout ce qui est mort et ce qui est vivant. Il est le maître de tout ce qui a été créé sur la terre. Il est maître des astres et de toute la création aussi, parce qu'il a racheté tout ça aussi par son sang. Par sa mort sur la croix, Jésus aurait racheté la création qui avait été volée. Elle a été rachetée par son sacrifice et le Père lui donne. Dans le psaume 2, le Père va dire au Fils, « C'est moi qui établis mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je veux proclamer le décret de l'Éternel. Il m'a dit, « Tu es mon Fils. » Je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-le-moi et je te donnerai les nations en héritage, les extrémités de la terre en possession. Il a été engendré quand? Eh bien, ça fait référence dans la prophétie à sa résurrection. Il est le premier-né d'entre les morts. C'est-à-dire que c'est le premier à revenir à la vie dans un corps glorifié, humain glorifié. Et donc, Dieu dit, « T'es mon fils? » « Demande-le-moi et je te donnerai les nations en héritage, les extrémités de la terre pour possession. » Donc, qu'est-ce que est l'héritage du Fils? La terre. La terre est tout ce qui comporte ça. Dans Éphésiens même, on voit que je pense que c'est ça, verset 9 jusqu'à 14, « Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, conformément au projet bienveillant qu'il avait formé en Christ pour le mettre à exécution lorsque les moments seraient venus, à savoir de tout réunir sous l'autorité du Messie, aussi bien ce qui est dans le ciel que ce qui est sur la terre. » Autant tout ce qui est les êtres angéliques que ceux qui sont sur la terre, autant ceux qui sont morts, les croyants qui sont déjà morts, qui vont revenir à la vie, qui vont être placés sous le Christ. C'est de ramener tout sous l'autorité de Jésus. Et même si Dieu lui a donné toutes les nations, même si les anges le servent, on ne voit pas encore que Jésus soit le maître de tout. On ne voit pas que Jésus soit le maître de ma vie tout le temps. Puis on ne voit pas que Jésus est le maître dans ce monde encore. Et pourtant, ça reste à venir. Et cet héritage-là, on va l'avoir de nos yeux. Donc, l'héritage de Christ, c'est d'être Seigneur et maître de toute la création. OK? Notre héritage à nous, c'est on devient héritier avec lui dès que nous croyons en lui. Éphésiens continue en disant qu'après que le dessein de Dieu, c'est de réunir tout sous l'autorité du Messie, il continue en disant, « En lui, nous avons été désignés comme héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui met tout en œuvre conformément aux décisions de sa volonté pour servir à célébrer sa gloire, nous qui avons par avance espéré dans le Messie. Qu'est-ce qu'on a fait pour se qualifier à cet héritage-là? Nous avons espéré dans le Messie. On a cru qui est Jésus et ce qu'il a fait pour nous. Et ce que ça a fait, ça, c'est que ça nous a désignés comme héritiers. Je suis donc devenu héritier parce que j'ai cru en lui. OK? Et la première part de notre héritage, c'est le Saint-Esprit. Donc, Dieu ne joue pas à la devinette avec nous en disant, tu vas peut-être hériter, tu hériteras peut-être pas. Si tu ne te comportes pas bien, peut-être tu ne seras pas héritier du royaume, peut-être tu n'iras pas dans le royaume. Si tu marches correctement, bien là, tu vas peut-être hériter. Hein? Non, il ne joue pas avec nous. Fait qu'il dit, OK, celui qui a fait la promesse est fidèle. On continue à lire le verset dans Éphésiens 1, qui dit, « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'Évangile qui vous sauve, en lui, vous avez cru et vous avez été marqués de l'empreinte du Saint-Esprit qui avait été promis. Il est le gage de notre héritage en attendant la libération de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. » Ce passage-là est clair. La première part de notre héritage que nous avons, c'est que nous avons reçu la troisième personne de la Trinité comme un sceau, une marque. Dans votre Bible, dans la Louis II, c'est le sceau du Saint-Esprit pour le jour de la rédemption. On a été marqué du sceau du Saint-Esprit pour le jour de la rédemption ou pour le jour de ceux, en attendant la libération de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Donc, vous n'avez pas votre héritage, en tout cas, pas en entier. Vous avez la promesse de votre héritage parce que vous avez comme si c'était un document étampé qui disait que vous avez la garantie que vous allez aussi avoir le reste. Dans le livre de Corinthiens, on appelle ça les arrhes de l'esprit, un paiement de dépôt. Le mot arrhe, A-R-R-H-E, c'est un dépôt qu'on fait en vue de faire le paiement complet un peu plus tard. Donc, le Saint-Esprit en nous vient et nous assure que notre héritage sera vrai. Il nous a donné son Saint-Esprit, et donc, s'il nous a donné son Saint-Esprit, il va aussi nous donner tout ce qu'il nous a promis plus tard. Et c'est une garantie. OK, donc, la garantie du paiement final. Le Saint-Esprit est en quelque sorte la bénédiction que vous recevez en échange du travail d'un autre. En fait, elle dépendait d'une œuvre, cette bénédiction-là. Et l'œuvre, ce n'est pas vous qui la faites. Vous êtes au bénéfice de l'œuvre d'un autre et vous recevez la garantie de la vie éternelle et le Saint-Esprit en vous en récompense du sacrifice de Jésus-Christ. Wow! C'est la première bénédiction, c'est en quelque sorte une bénédiction, une garantie que vous allez aussi être libérés. Et donc, l'héritage est utile. Cette vérité-là est utile pour que vous puissiez vous reposer. Et savoir que vous êtes sauvés pour toujours. Et pourtant, il y a des gens qui utilisent cette vérité-là pour dire qu'on ne peut jamais être sûr complètement d'hériter le royaume de Dieu à cause du verset qu'on va voir à la fin de mon message. OK. Qu'est-ce qui nous rend héritiers? Ce n'est pas parce qu'on s'est qualifié. On n'a pas regardé une liste de choses de requis qu'il fallait se conformer si on voulait participer à l'héritage. Ce n'est pas un concours, c'est une offre qui nous est faite. Et donc, dans Romains 8, 17, c'est clair, « Si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. » Donc, la condition pour être héritier, c'est d'être son enfant. À partir du moment où on est son enfant, la manière qu'on va marcher avec lui, si on choisit de souffrir avec lui, c'est-à-dire de ne pas vivre juste pour les valeurs de ce monde, mais vivre pour les valeurs qui sont en haut, puis quand ça rentre en conflit avec les valeurs qui sont sur la terre, bien, on choisit de souffrir avec lui. Eh bien, la qualité de notre héritage va dépendre de notre marche sur la terre. Mais le fait qu'on est héritier, c'est parce qu'on est des enfants. Mais on peut se présenter à la lecture de l'héritage puis de voir quelle sera notre part à ce moment-là. Ça, c'est une autre affaire. Mais le passage est clair. C'est parce qu'on est enfant qu'on est héritier, point. Ou deux points. Héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Donc, si vous êtes enfant de Dieu, vous êtes par le fait même qualifié pour être dans le testament ou dans l'héritage. Okay? Ce n'est pas notre façon de marcher qui nous a rendus héritiers, c'est le fait qu'on est devenus des enfants de Dieu. Mais la qualité de votre héritage va être influencée par votre marche avec lui. Incapable d'être un enfant de Dieu. Incapable. Par nos propres œuvres, de la volonté de l'homme et de la chair, c'est impossible à l'homme de devenir un enfant de Dieu. On n'est pas capable de paraître juste devant sa sainteté. On a des ténèbres devant nous et Dieu est présenté comme celui qui habite une lumière inaccessible, tellement il est saint, tellement il est pur qu'un homme ne peut pas le voir puis vivre. Et donc, participer à l'éternité dans un héritage avec Dieu dans la lumière, c'est impossible parce que les ténèbres en moi m'empêchent de m'approcher d'un Dieu qui est saint. Et donc, il faut que je sois qualifié pour l'héritage, il faut que je sois qualifié pour entrer là, dans cette présence de Dieu, dans la lumière. Mes ténèbres ne me permettent pas d'approcher Dieu qui est saint et qui éclaire toutes choses. On est incapable de se tenir dans cette lumière inaccessible. Et donc, cette lumière, c'est celle qui est en Dieu. Et on voit un verset qui dit ici, « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints, dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. » Dieu m'a rendu capable. Je n'ai pas fait quelque chose pour mériter d'être sur le testament, d'être sur l'héritage, d'avoir ma part dans cet héritage-là. J'étais incapable d'avoir ma part dans l'héritage, de participer avec Dieu dans l'éternité. Incapable. Mais il m'a rendu capable. Et comment il l'a fait? Il l'a fait par la rédemption et la rémission des péchés, par le pardon. Paul dit à Timothée, en parlant de la lumière, il dit « le roi des rois » en parlant du Père de notre Seigneur Jésus. « Et le Seigneur des seigneurs qui seul possède l'immortalité, nous on la reçoit de lui, mais lui la possède, qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vu ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur, la puissance éternelle. » Paul décrit à Timothée que Dieu habite une lumière qui est inaccessible, puis un homme dans sa chair ne peut pas voir Dieu puis vivre. Okay? Et donc, il fallait que s'il voulait faire de nous des héritiers qui partageraient l'éternité avec lui, il fallait aussi qu'il traite la souillure qui était en nous, le péché qui était en nous. Et donc, ce problème-là de notre péché a été réglé par le pardon et on peut s'approcher de Dieu et prendre part maintenant à cet héritage-là. Pas juste être membre de sa famille, mais participer avec lui. Et donc, on est présenté à Dieu dans la sainteté de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui prend mon péché me donne en échange sa sainteté et le Saint-Esprit qui me présente au Père dans la justice de Jésus. Et donc, je peux prendre part à cet héritage-là et être présenté devant Dieu dans la sainteté de Jésus-Christ. Non seulement il nous rend saints pour qu'on puisse aller au ciel, mais il nous donne un objet à notre affection ou une personne à aimer. Il dit, il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Oups, c'est le verset d'avant. Il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. On n'est pas juste là à être capable d'être dans la présence d'un Dieu saint. On est dans la présence d'un Dieu à aimer. On est dans la présence de Dieu le Fils qu'on peut aimer et vivre une relation personnelle et intime avec lui. Donc, ce n'est pas juste d'être saint pour subsister devant sa sainteté, mais il nous transporte dans le royaume du Fils de son amour. Le transfert du royaume est un fait accompli pour celui qui a reçu le pardon, pour ceux en nous qui avons la rédemption et la rémission des péchés. Si vous avez reçu la rémission et le pardon de vos péchés en plaçant votre confiance en Jésus-Christ seul pour la vie éternelle, vous avez été transféré des ténèbres, avec les ténèbres qu'il y avait en vous puis les ténèbres qu'il y avait dans le monde, à un endroit où vous êtes maintenant avec Dieu. Et ça, c'est un fait accompli. C'est déjà réglé. C'est important. Vous dites, oui, mais on laissait ces choses-là. Oui, mais quand on arrive au passage obscur qui nous dit qu'on pourrait perdre l'héritage qui est d'aller au ciel, hop, là, on vacille comme ça. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on met des pieux bien affermis avant d'aller voir ces passages-là. On va revenir au passage qui de Colossiens 1:12 qui dit « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. » Nous, en Amérique du Nord, puis dans nos sociétés modernes, un héritage, c'est quand qu'on a ça? Quand quelqu'un est mort puis qu'il nous a fait un testament, right? Bien, dans la Bible, ce n'est pas nécessairement ça. Bien que ce soit depuis que la mort de Christ a été faite qu'on peut recevoir quelque chose, ce n'est pas uniquement cela. Par exemple, justement, avoir part à l'héritage, voyez-vous ici, des saints. On va regarder ça ensemble. C'est les mêmes mots qui sont utilisés, le mot part ou héritage, dans Colossiens 3:24. Sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage, ou votre part, pour récompense, servez Christ le Seigneur, car celui qui agit injustement recevra selon son injustice, et il n'y a point d'exception de personne. Ce passage-là nous dit qu'on a une part qu'on va recevoir plus tard, qui n'est pas dépendante nécessairement. C'est sûr qu'elle est le résultat de l'œuvre de Christ, mais elle est dépendante de nous, de ce qu'on va, comment on va avoir agi dans la justice ou dans l'injustice. Okay? Un autre, dans Actes 26, ça c'est Paul qui est devant Agrippa, le roi Agrippa, puis il explique comment il a reçu son appel. Et il dit, c'est Dieu qui avait dit à Paul, « Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés, ou la part, dans l'original, c'est la part. » Et donc, quand on regarde l'héritage, la doctrine de l'héritage, l'enseignement de l'héritage, ce n'est pas juste quelque chose qui est donné à la mort de quelqu'un, mais c'est quelque chose qui est partagé entre plusieurs. C'est un héritage, donc, qui nous est partagé entre plusieurs. Ce n'est pas juste à cause d'une mort. Okay? Et ça, c'est important. Une fondation biblique de l'enseignement du Nouveau Testament trouve sa racine dans l'Ancien Testament aussi. Comment est-ce que Dieu traitait l'héritage de son peuple, le peuple d'Israël? Et sérieux, juste la petite illustration que je vais vous donner, j'aurais juste pris ça pour faire mon message. Je me serais vraiment, vraiment amusé. C'est quelque chose de nouveau complètement pour moi. C'est quelque chose que je n'avais jamais vu avant. J'ai écrit à Pasteur Pat, j'ai dit, « Sais-tu, j'ai-tu bien compris? » Puis il a fait un pouce. Des mains en prière, puis un « Amen ». Ça veut dire que je me suis validé, puis j'étais content de ça. Comment est-ce que Dieu a traité avec Israël dans l'Ancien Testament? Bien, il a dit à Israël qu'il posséderait la terre en héritage, la terre d'Israël, et qu'elle serait divisée. Elle a été divisée en 48 villes et villages, hein? Des arrondissements, on pourrait dire. On voit ça, tu sais, dans le chapitre 13, tout est divisé parmi les 11 tribus. Donc, donne seulement ce pays en héritage par le sort à Israël, comme je te l'ai prescrit. Josué 15:1. La part échue par le sort à la tribu des fils de Juda, selon leur famille, s'étendait de la frontière. Et là, il donne toutes les places qu'ils ont reçues en héritage lorsqu'ils sont arrivés à Canaan. Josué chapitre 16, verset 1. La part échue par le sort aux fils de Joseph s'étendait. Et donc, il y a une division comme ça qui est faite. Intéressant. Ça doit être compris, donc, l'héritage comme quelque chose qui va être partagé avec les autres. L'héritage des fils de Joseph, c'était telle partie. L'héritage des fils de Juda, c'était telle partie. L'héritage des fils de Lévi, tel héritage. Okay? Et donc, nous aussi, on devrait comprendre que l'héritage que Dieu nous offre, c'est un héritage avec les saints. Quelque chose qu'on va partager ensemble, qui est le paradis perdu. Mais d'abord, la terre. On va posséder la terre, toutes les nations. On va donc, pendant 1000 ans, recevoir un héritage ici sur la terre et dans les cieux. Okay? Excellent. Je vous donne l'illustration. L'illustration, c'est Lévi. OK, juste avant, je vais résumer. Christ est l'héritier. Pour comprendre la doctrine de l'héritage, l'enseignement de l'héritage, on doit comprendre que Christ, le Fils de Dieu, est l'héritier et qu'il a reçu tout le monde en héritage, et les gens qui sont décédés et ceux qui sont vivants, et les anges et les choses visibles et invisibles, que tout existe pour lui, par lui. On devient héritier ou co-héritier de Christ, héritier de Dieu, co-héritier de Christ, quand on croit, au moment où on a cru, on a reçu le pardon de nos péchés. Le Saint-Esprit est le gage de notre héritage. On a une garantie qu'on va hériter du royaume de Dieu. En tout cas, pour la partie aller au ciel, c'est l'œuvre d'un autre. Pour la partie de qu'est-ce que je vais avoir comme récompense, ça, c'est mes œuvres à moi. C'est ma manière que je vais avoir marché. Donc, l'entrée au ciel, c'est le résultat de l'œuvre de Christ. Les héritages qui vont venir avec ça, ma part que je vais partager avec mes autres frères et sœurs, c'est comment je vais avoir vécu sur la terre. Mais le Saint-Esprit, lui, c'est le gage que je vais au ciel. Ça, c'est garanti. Parce que je suis son fils, je suis sur le testament, je suis sur l'héritage. Et parce que je suis rendu capable, c'est-à-dire que j'ai reçu le pardon de mes péchés. Donc ça résume bien la vérité de fond de ce qu'on a enseigné ce matin. Maintenant, laissez-moi vous parler de Lévi. OK, Lévi, c'est un des 12 fils de Jacob. Il est le deuxième, je pense, fils de Léa, sa deuxième femme. Bien, sa première femme, pardon, mais sa deuxième de choix. On n'entend pas parler beaucoup de cet homme-là, à part qu'il se démarque vraiment dans une histoire de meurtre. C'est-à-dire que Jacob retourne vers la maison de son père. Il est en route, il a rencontré Ésaü, son frère qui était très choqué après lui il y a quelques années. Mais là, ils ont fait la paix ensemble, puis là, ils se sont réconciliés, puis là, il est en train de revenir dans la maison de son père. Et il va s'installer à une ville, je pense à Sichem, la ville, elle porte le nom d'un des gars, où on a nommé la ville d'après le nom de ce gars-là après. Il y a un des gars, Sichem, justement, il la trouve belle, Dina. Dina, c'est la sœur, c'est une de leurs sœurs. Puis, elle viole. Puis, Lévi, puis les frères sont tous vraiment outrés de ça. C'est une offense qui a été faite. Puis, Sichem vient voir Jacob pour dire, en tout cas, elle est belle ta fille. Puis son père, je pense qu'il était le roi ou l'autorité de la place, dit, écoute, on pourrait-tu marier vos filles avec nos fils, puis tout ça. Fait que les gars, ils se sont parlé. Puis on dit, écoute, mais il faut que vous les circonciez. Fait que si vous circonciez tous les hommes, il n'y a pas de problème, on va donner nos filles pour femmes à vos maris. T'sais. Puis Lévi, Lévi et, je vais vous le dire, Siméon. Lévi et Siméon, eux autres, ils n'en parlent pas à leur père, ils n'en parlent pas au reste des frères, mais pendant la nuit, alors que tous les hommes sont sur leur dos parce qu'ils se sont fait une intervention avec une roche, probablement, il y a la fièvre, ils sont alités. Les deux frères vont rentrer, couper les jarrets des animaux. Puis ils vont rentrer dans les tentes, puis ils vont tuer tous les hommes de cette ville-là. Puis après ça, les frères vont se joindre à eux pour faire le pillage, puis ils vont tous les piller. Et la raison, c'est parce qu'ils ont violé sa sœur. Il a violé sa sœur. Tu sais. Et on va voir que, dans cette histoire-là, on va voir que Jacob, il ne prendra mais vraiment pas. Il va garder ça dans son cœur, mais il va être amer envers ses deux fils et il est outré. Et un peu comme un homme qui attend à la fin de sa vie pour que les gens découvrent que sur le testament, ils ont été rayés sur le testament. Eh bien, il y avait une bénédiction qui était faite à la mort de la personne, où ce que Jacob, il va faire soit une bénédiction, soit une malédiction sur ses fils. Puis, il va dire de Jacob ceci. Et c'est une prophétie de Jacob sur Lévi. Siméon et Lévi sont frères. Leurs épées sont des instruments de violence. Je ne veux pas participer à leur conciliabule. Je ne veux pas m'associer à leur assemblée. Car pour assouvir leur colère, ils ont tué des hommes. Et pour suivre leur désir, ils ont mutilé les jarrets des taureaux. Maudite soit leur colère, car elle est violente, et leur fureur, car elle est cruelle. Je les séparerai dans Jacob et je les disperserai dans Israël. Parmi tous ceux qui auront un héritage, les fils de Lévi de Siméon n'auront pas de portion de terre. Ils n'auront pas de division, ce qu'ils pourront dire, je suis chez nous. Donc, les fils de Lévi. Je n'ai pas étudié Siméon. J'aimerais bien le faire si j'avais un peu plus de temps, mais j'ai étudié Lévi par contre. Puis c'est exactement ce qui est advenu. Ils n'ont pas pu avoir de territoire en Israël. et ça leur a été enlevé à jamais à cause de cette histoire-là. Y a-t-il des gens qui étaient au courant de ça? Y a-t-il qui avait déjà lu ça puis avait fait le parallèle? Vous l'aviez fait, le parallèle? OK, bien, on découvre ça ensemble. C'est le fun. Bien, ce n'est pas le fun pour Lévi, mais vous allez voir que c'est vraiment intéressant. Vous vous rappelez que là, le peuple d'Israël a grandi en Égypte, puis là, il est devenu nombreux, puis là, ils ont sorti d'Égypte, puis ils sont arrivés au pied du mont Sinaï, où Dieu est apparu dans une montagne en feu, puis leur a donné les commandements. Vous vous rappellerez aussi qu'au pied de la montagne, pendant que Moïse était en train d'écrire, ou que Dieu écrivait sur les tables de pierre, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face », qu'est-ce qui se passait au pied de la montagne? Oui, fais-nous un Dieu qu'on peut voir. Et ça, là, c'était la fin de la nation d'Israël. Littéralement, s'il n'y avait pas quelque chose de drastique pour changer ça, le peuple redevenait un idolâtre, puis il disait, « Voici le Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. » Là, ils ont fait un veau en or qui ressemblait au Dieu de l'Égypte. Hein? Puis là, il fallait qu'il se passe quelque chose de drastique. Et on voit Moïse qui se met à l'entrée de la ville, puis qui va dire, ou à l'entrée en tout cas de où ce qu'ils étaient, puis il va dire, « Qui est pour moi et pour l'Éternel? Qui sont ceux qui se sont sortis complètement du reste du groupe puis qui sont allés avec Moïse? » Les descendants de Lévi. Puis il a dit, « Vous passez au travers le peuple, puis vous punissez le peuple. » Ça, c'était à l'épée et au sang. Mais il est arrivé qu'il y a 3000 personnes qui sont mortes. Là. C'est un jugement de la part de Dieu. Dieu qui corrige son propre peuple. Et c'était terrible comme journée, mais en même temps, c'était quelque chose. C'était comme si ce n'était pas ça, le peuple d'Israël redevenait un idolâtre. T'sais. Puis on lit ça, puis on dit, « Wesh! » C'était dur, mais c'est qui s'est démarqué des autres? Eh bien, c'est les enfants de Lévi. C'est les seuls qui ont sorti de la foule. Et ce geste-là, à la fin du chapitre 32 d'Exode, dit, « Ceci vous a établi comme serviteur de l'Éternel. » Ils se sont tenus pour la vérité, puis ont effectué le jugement de l'Éternel. Mais Dieu ne va pas leur donner la terre en héritage, mais il va les rendre, au lieu de, tu sais, quand que la prophétie a été dit, là, « Je ne m'associerai jamais à leur assemblée. » Et à cause de ça, ils vont être séparés dans Jacob et dispersés dans Israël. Donc, les nations qui allaient sortir de leur propre père, finalement, ils allaient être dispersés. Puis on voit qu'ils ont été séparés. Mais ici, ça ressemble quasiment qu'ils vont être les serviteurs de leurs frères, qu'ils vont être les esclaves, tu sais, qui n'auront pas d'héritage, puis qui vont être dispersés, ils n'auront pas d'identité. Hein? Puis ce qui est spécial, puis on voit la grâce de Dieu dans ça, c'est que même si Dieu ne leur donne pas la terre en héritage, il les rend serviteurs, il ne les rend pas serviteurs de leurs frères éparpillés, mais Dieu dit, « OK, je vais me les prendre à moi comme mes propres serviteurs. » C'est spécial parce qu'il avait dit, jamais je vais me participer à leurs affaires. Mais il les fait participer à ses affaires. Nombre 3, 1, 11. L'Éternel dit à Moïse, « J'ai pris des Lévites du milieu des Israélites à la place de tous les premiers-nés des Israélites et les Lévites m'appartiennent. » Un héritage pour Dieu. Ils sont un héritage pour Dieu. « Le jour où j'ai frappé tous les premiers-nés en Égypte, je me suis consacré tous les premiers-nés en Israël, aussi bien les hommes que les animaux. » Et ils m'appartiendront, et je suis l'Éternel. » Donc, dans toutes les familles, il y avait le premier-né qui avait été consacré à Dieu. On a pris un animal innocent, puis on a sacrifié là, l'agneau. Hein, Jackie nous en a bien parlé. Et donc, ils ont été rachetés. Chaque enfant premier-né de chacune des maisons a été racheté par un agneau. Hein? Et chaque première bête, premier-né des bêtes, doit être immolée comme un sacrifice pour l'Éternel. Bien, il dit, « Parce qu'ils sont à moi, dit Dieu. » Et pour pas que le monde oublie, ni Israël, ni le monde, que Dieu a libéré son peuple par un agneau. Et c'était pour nous amener à la croix éventuellement, tout ça. OK, je reviens un petit peu. Donc, il dit, « Ils vont m'appartenir. Parmi tous les enfants d'Israël, Lévi va être mon premier-né. Il va être à moi, il m'est consacré à moi. » Et ça, c'est quelque chose. Dans Nombre 18, au verset 20, je vous le lis. L'Éternel dit à Aaron, « Tu ne posséderas rien dans le pays où il n'y aura pas de part pour toi au milieu d'eux. C'est moi qui suis ta part. » Là, il dit ici, Ils m'appartiendront, ils m'appartiennent. Les descendants de Lévi m'appartiennent. Ils sont l'héritage de Dieu, si on peut dire. Mais là, dans Nombre 18-20, il dit, « C'est moi qui suis ta part et ta possession au milieu des Israélites. Je te donne comme possession aux Lévites toute la dîme en Israël pour le service qu'ils effectuent, le service de la tente de la rencontre. Les Israélites ne s'approcheront plus de la tente de la rencontre, sinon ils se chargeraient d'un péché et mourraient. Les Lévites feront le service de la tente de la rencontre et ils supporteront les conséquences de leur faute. Ils n'auront aucune possession au milieu des Israélites et ce sera une prescription perpétuelle valable au fil des générations. Je te donne comme possession aux Lévites, je donne comme possession aux Lévites les dîmes que les Israélites présenteront à l'Éternel à titre de prélèvement. Voilà pourquoi je dis à leur sujet, ils n'auront aucune possession au milieu des peuples d'Israël, Donc, ils ne sont pas devenus les serviteurs de leurs frères, ils sont devenus les serviteurs de Dieu dans le temple, et la malédiction est devenue une bénédiction. Pourtant, il avait dit, tu vas être éparpillé, je ne veux rien avoir à faire avec toi. Puis là, il dit, tu vas être à moi, puis moi, je vais être ton héritage. Wow! Dans Josué 13, au verset 33, à propos des séparations de terrain, Moïse ne donna pas d'héritage à la tribu de Lévi. L'Éternel, le Dieu d'Israël, était lui-même leur héritage, comme il le leur avait dit. Je veux rien avoir à faire avec toi. Ce que tu fais, c'est pas bon. C'est méchant ce que tu fais. Puis il les prend comme ses propres serviteurs. Puis il dit, je suis votre part, puis vous êtes ma part. En tout cas, je vois quelque chose de beau dans ça. Ils sont les serviteurs de Dieu. Et le peuple les sert avec leurs dîmes et leurs offrandes. Puis eux, ils vont manger de ça. Ils vont vivre des animaux qui sont apportés. Puis, ils vont en donner un dixième au prêtre, au grand prêtre, qui lui aussi va manger et subsister comme ça. Et ça, c'est une belle image de la grâce de Dieu, même dans l'Ancien Testament. Pourquoi? Parce que c'est un peuple qui était maudit pour leur violence et qui était destiné à être dispersé sans part à l'héritage. Parmi leurs fils, il y a eu aussi les fils de Corée qui ont été une race de rebelles. Corée, avec deux autres gars, ils ont à un moment donné soulevé puis ont dit hey, « c'est pas vrai que Dieu va juste parler par Moïse. » Puis ils ont commencé à faire une rébellion en disant « Dieu peut parler par n'importe qui ici. » Puis il y a eu une rébellion, puis il s'est passé des tests. Il y a eu des tests qui ont été faits pour montrer que ce n'était pas vrai, puis que Dieu allait faire fleurir la verge juste de un, puis pas la verge des autres. Donc, un bout de bois qui est devenu plein de bourgeons, puis les autres sont tous restés des bois morts. Puis à un certain moment, il y a un jugement qui est tombé, puis ils ont dit « Sortez, séparez-vous. » de cette famille-là. Et là, qu'est-ce qui est arrivé? La terre les engloutit vivants. Tu dis, wow! Mais dans les fils de Corée, il y en a plein qui sont retrouvés plus tard comme étant des boulangers et des lévites qui servent dans le temple encore. Pourquoi? Eh bien, parce qu'ils ont entendu les avertissements, ils ont pris à cœur les avertissements de Dieu et ils ont reçu le pardon. Et ce que je veux qu'on voit ensemble, c'est que même si on a mal fait, même si on a mal commencé, ou même si on a bien commencé et on a mal continué, ça ne veut pas dire qu'on va mal finir. Des gars qui vont tuer un village, qui sont remplis de violence et de méchanceté, eh bien, leurs descendants ont décidé de faire autrement. Et à cause qu'on a le pardon qui est disponible, eh bien, ça influence sur notre héritage aussi. C'est une belle image qu'on a reçu le pardon nous-mêmes en Jésus-Christ et ça nous a permis que malgré nos fautes passées, on puisse quand même être des héritiers de ce grand Dieu-là. Et donc, ils ont fini par être des serviteurs dans le temple et avoir Dieu pour héritage. Si ça, ce n'est pas la grâce manifestée, je ne sais pas quoi de mieux qui pourrait l'illustrer. Donc, on revient à notre résumé d'aujourd'hui. Christ, c'est l'héritier. On devient héritier en croyant. Le Saint-Esprit est le gage de notre héritage. Et parce qu'on est fils, on est héritier et on en est rendu capable à cause de son pardon. On peut hériter de lui et on a une part avec les autres. Le passage qu'on veut regarder, que vous avez dans vos Bibles, vous avez tourné là, c'est dans 1 Corinthiens 6, verset 8. 1 Corinthiens 6, verset 8. Certaines personnes, quand on dit qu'on est sauvé pour toujours, ils vont trouver ça drôle, puis ils vont prendre un verset comme celui-ci ici qui dit « C'est impossible qu'on puisse être certain d'être sauvé à cause de ce verset ici. » Mais vous, au contraire, qui commettez l'injustice, qui dépouillez les autres, c'est envers des frères et sœurs que vous agissez ainsi. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les travestis, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les hommes toujours désireux de posséder plus, ni les ivrognes, ni les calomniateurs, ni les exploiteurs n'hériteront du royaume de Dieu. Donc, il décrit une série d'œuvres ici, puis ces gens qui font ça n'iront pas au ciel. C'est ce que Paul est en train de dire. Les gens qui font ces choses-là n'iront pas au ciel. Mais dans cette liste-là, vous en avez peut-être un ou deux que vous avez fait. Vous avez jamais calomnié? Ici, c'est écrit que les calomniateurs n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Avez-vous déjà eu une pensée sexuelle envers le sexe opposé? Jésus vous dit que vous avez commis un adultère quand vous avez fait cela. Ah, méchante personne! Non. On se reconnaît tous là. Eh bien, si on se reconnaît dans une de ces choses-là, bien, on ne peut pas hériter du royaume de Dieu. C'est ce qui semble paraître vouloir dire. Mais laissez-moi vous donner le contexte immédiat de ce passage-là, puis on va essayer de voir qu'est-ce qu'il veut dire. Premièrement, la première lettre aux Corinthiens, c'est une lettre pour adresser beaucoup de désordres qui se passent dans cette église-là. Le premier désordre qui est mentionné, c'est le fait que les frères s'amènent en cours, puis des choses qui devraient se régler en dialoguant avec d'autres frères dans l'église, ils ne le font pas, fait qu'ils s'en vont directement devant les tribunaux. Okay? Donc, on va lire ça du verset 1 au verset 4. « Lorsque l'un d'entre vous a un litige avec un autre, comment ose-t-il demander justice devant les injustes et non devant les saints? Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde doit être jugé, êtes-vous incapable de rendre des jugements de faible importance? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Combien plus les affaires de la vie courante? Vous qui avez des litiges concernant les affaires de cette vie courante, vous prenez pour juge des gens dont l'Église ne fait aucun cas. » Donc, qu'est-ce qu'on voit dans ce passage-là? Les frères s'amènent en cours. Il s'agit du mal qui est fait entre frères. Okay? Et donc, Paul leur rappelle qu'un jour, ils vont juger les hommes et les anges. Donc, il est en train de leur parler qu'ils ne sont pas juste des membres du royaume, ils sont des autorités dans le royaume à venir, qu'ils vont juger et les hommes et les anges. Pourquoi? Pourquoi est-ce que les croyants vont juger les hommes? Bien, probablement parce qu'ils vont servir de témoins à leur foi ou leur non-foi, à leur acceptation de l'Évangile ou à leur refus de l'Évangile. Et donc, Dieu va les utiliser, puisqu'ils ont été d'abord ceux qui offraient le salut, ils vont être aussi utilisés dans la décision ou dans leur jugement. C'est difficile de concevoir, mais ici, il dit, écoute, vous ne jugez même pas le mal qui est fait au milieu de vous, puis quand Christ va revenir, vous allez être assis sur le trône comme étant l'épouse de Jésus, et vous allez régner avec lui, donc vous allez aussi juger. Vous allez juger même les anges, le texte dit, ces anges déchus-là qui nous ont tentés, combien de fois ils nous ont fait trébucher. Combien de fois ils nous ont essayé de nous dévier de la voie de Dieu dans nos vies, qui ont voulu nuire à notre marche chrétienne, qui ont été nos opposants invisibles sur la terre, eh bien là, le rôle se renverse. On devient le juge ou on devient ceux qui vont les juger. Hey. Il dit, avec telle noblesse, avec telle autorité que vous allez avoir dans le monde à venir, puis vous ne jugez même pas les affaires mal qui se passent au milieu de vous. Donc, il n'est pas en train de dire qu'ils n'hériteront pas du royaume. Au contraire, ils vont être des juges dans ce royaume-là et ils vont être à côté de Christ comme étant l'épouse de Christ qui vient régner avec Jésus. Et donc, ce n'est pas une question est-ce qu'ils ont le royaume ou pas. Là. Okay? Donc, le contexte immédiat ne parle pas de les faire douter qu'ils n'auront pas le royaume, au contraire. Leur injustice au verset 5 à 8, « Je le dis à votre honte ainsi, il n'y a pas parmi vous un seul homme sage qui puisse juger entre ses frères et sœurs. Au contraire, un frère est en procès contre un frère, et cela devant des incroyants. C'est déjà pour vous un échec complet que d'avoir des procès les uns avec les autres. Pourquoi ne vous supportez pas une telle une injustice? Pourquoi ne vous laissez pas plutôt dépouiller? Mais c'est pour vous, au contraire, qui commettez l'injustice. C'est vous qui, au contraire, commettez l'injustice et qui dépouillez les autres. Et c'est envers des frères et sœurs que vous agissez ainsi. Et là, c'est notre passage qu'on étudie. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les travestis, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les hommes toujours désireux de posséder plus, ni les ivrognes, ni les calomniateurs, ni les exploiteurs n'hériteront du royaume de Dieu. Alors, qu'est-ce que Paul est en train de faire? Paul, dans les versets 9 à 10, est en train de démontrer les fruits injustes de personnes injustes. Il les appelle des saints au début, puis là, il dit, voici ce qu'est un injuste. Et un injuste n'héritera pas. Et ce qui rend ça évident, c'est les fruits injustes d'une personne injuste. Jésus a dit, d'un bon arbre sort des bons fruits, d'un mauvais arbre produit des mauvais fruits. Et il est en train de dire que ceux qui ne sont pas réconciliés n'ont pas reçu un esprit de sainteté pour produire en eux une vie nouvelle. Et dans le contexte ici, c'est celui qui commet, pratique l'homosexualité, c'est celui qui pratique la calomnie, c'est celui qui pratique l'exploitation, c'est celui qui continuellement vole. Ce n'est pas des gens qui n'ont jamais commis l'adultère, mais c'est celui qui commet l'adultère, qui est pravi dans la pratique de l'adultère, etc. Et donc, ce passage-là ici nous parle que la personne non-croyante a les fruits aussi qui démontrent qu'elle n'est pas un enfant de Dieu, qu'elle n'a pas reçu l'esprit de sainteté. Mais pour nous, pour le croyant, celui qui est un croyant, il a reçu l'Esprit Saint. Et cet Esprit Saint-là l'amène à s'éloigner de l'immoralité sexuelle, l'amène à s'éloigner des pensées adultères, l'amène à ne plus voler, à ne plus mentir. Elle vient d'abord nous laver, cet esprit de vérité-là vient à prendre le sang de Jésus puis vient laver notre conscience des œuvres qu'on a faites avant. Cet Esprit Saint-là vient produire en nous la vie même de son Fils, la vie de Jésus-Christ. Et donc, il est en train de leur dire, « Hey les gars, vivez pas comme vous viviez avant. Vivez comme des enfants de Dieu qui ont été lavés, qui portent des nouveaux fruits. » Je remets simplement à l'écran les bases de l'héritage qui nous est à venir. Regardez bien et écoutez attentivement avec moi les versets 11 et suivants. Parce que le verset 11, il dit « C'est là ce que vous étiez ». Donc, il n'est pas en train de dire « Si vous faites ces choses-là, vous hériterez pas ». Non. Il dit « Voici le portrait d'une personne non sauvée. Église de Corinthe, arrêtez d'agir comme si vous étiez avant. Vous n'êtes plus comme avant. Vous avez été lavés. Vous avez été pardonnés, fils de Lévi. Vous étiez des hommes violents. Maintenant, soyez des serviteurs du temple. Hein? Tu étais un voleur. Ben, mens plus. Tu étais un adultère. Trompe plus. Tu étais un homosexuel et tu pratiquais l'homosexualité. Arrête ça. Tu as été lavé. Agis d'une nouvelle façon. » Et c'est Paul est en train de dire à l'Église de Corinthe, « Comportez-vous pas comme dans le monde. Soyez des nouvelles personnes. » Parce que ces gens-là, en plus de vivre dans ces choses-là, ils n'hériteront même pas du royaume de Dieu. Mais vous, vous avez un héritage dans les cieux. Vivez comme des héritiers du royaume de Dieu. Il n'est pas en train de dire, « Si vous faites ces choses-là, vous n'hériterez pas du royaume. » Regardez, il dit, « Vous avez été lavés, mais c'est possible de se vautrer dans ça encore. » Regardez le verset. Il dit, « Mais vous, vous avez été lavés et vous avez été déclarés saints, mais vous avez été déclarés justes au nom du Seigneur Jésus-Christ par l'Esprit de notre Dieu. » C'est nouveau pour vous. Vous avez une justice, mais il dit, « Voici ce que les injustes font. Ils font ceci, ils font cela, ils font cela, ils font cela, ils font cela. » Puis en plus, ils n'ont pas d'héritage. Ils n'auront pas le royaume pour héritage. Mais vous, vous êtes justes. Voici ce que les injustes font, disent. Vous avez été lavés. Vous avez été justifiés. Et là, regardez l'intercession de Paul pour les Corinthiens. Et c'est l'intercession que je fais pour chacun d'entre nous ici et à moi-même. Il va dire au verset 12 que la liberté doit être maintenant utilisée d'une nouvelle manière. Avant, on l'utilisait pour faire ce qu'on veut, puis on se rendait esclave de pratiques de péché. Mais maintenant, On utilise notre liberté. Il dit au verset 12, « Tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas dominer par quoi que ce soit, parce que si je me livre au péché, Jésus dit dans Jean 8 que je vais devenir esclave du péché. Okay? Les aliments sont pour le ventre pour les aliments, mais Dieu détruira l'un comme l'autre. Mais le corps n'est pas pour l'immoralité sexuelle, il est pour le Seigneur. Le Seigneur est pour le corps. Or, c'est Dieu qui a ressuscité le Seigneur, nous ressuscitera aussi par sa puissance. OK? Ensuite, regardez, verset 15. Ne savez-vous pas que votre corps, que vos corps sont les membres de Christ? Il y avait ces femmes-là qui, à chaque jour, passaient dans Corinthe, hein, ces femmes prostituées-là, qui amenaient les hommes dans le temple de Diane pour se prostituer avec eux. Et donc, Paul va dire aux Corinthiens, « Mariez-vous au lieu de brûler, là, tu sais, dans le sens que vous allez vous détruire si vous faites commettez des actes immoraux avec ces femmes-là. Hein. » Donc, il y avait cette tentation-là ici. Mais le gars, il va dire au verset 15, « Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Prendrais-je les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Certainement pas. Ne savez-vous pas que celui qui s'unit à la prostituée est un seul corps avec elle? En fait, il est dit, ils ne font des deux qu'un. Mais celui qui s'unit au Seigneur est un seul esprit avec lui. » Fait que là, il dit, vous avez été lavé, mais quand vous unissez votre corps avec l'autre, vous partagez son bagage spirituel, vous partagez tout son héritage spirituel, vous devenez un corps, vous vous unissez à quelqu'un qui est impur, mais vous avez été lavé. Mais il dit, vous êtes aussi, si vous vous unissez avec le Seigneur, vous êtes un seul esprit avec lui. Et il est en train de donner un challenge à des croyants de dire, vivez pas comme avant. C'est ça le contexte de notre passage ici. Regardez. Fuyez l'immoralité sexuelle et tout autre péché qu'un homme commet est extérieur à son corps, mais celui qui se livre à l'immoralité sexuelle pêche contre son propre corps. Ne le savez-vous pas? Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Ah! Il avait dit de Lévi, « Ils m'appartiendront. Hein? » Dieu a dit aux Lévites, « Ils m'appartiendront. » Eh bien, Dieu a dit de vous que vous lui appartenez, que votre corps n'est plus à vous, vous lui appartenez. Il vous a racheté. Regardez ce qui est écrit. « Vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix. » Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Vous êtes l'héritage du Seigneur Jésus. À la croix, il a payé un prix et Dieu lui a donné vous comme un héritage. Mais il a donné aussi Dieu comme héritage à vous. Et Dieu est votre part. Il est votre héritage dans cette vie. La première garantie qu'il vous donne, c'est de placer l'Esprit Saint en vous pour vous faire participer à sa sainteté. Il vous a donné son Esprit Saint et le pardon de vos péchés pour vous présenter saint devant Dieu à cause de Jésus-Christ. Il vous pardonne. Il fait de vous des enfants, des bénéficiaires d'un héritage. Puis comme le psalmiste a dit au psaume 16, « Ma part est en toi et un délicieux héritage m'est réservé. » Et ma prière et mon désir, c'est qu'on puisse faire de Dieu notre part dans cette terre. On ne mériterait pas d'avoir de part sur cette terre comme les fils de Lévi. Dieu est notre part à cause du pardon. Puis qu'on puisse vivre comme des héritiers puis des enfants de Dieu. Et le passage aujourd'hui ne met nullement en doute que parce qu'on a commis une de ces choses-là, parce qu'on a vécu dans le passé dans ces choses-là, qu'aujourd'hui, ça ne fait pas de nous des enfants de Dieu. La base n'est pas du tout basé sur notre marche. Notre héritage est basé sur les choses qu'on a vues aujourd'hui en début de mon message. Donc, vivez comme des héritiers de Dieu. Amen. Merci. J'aimerais qu'on puisse courber la tête, fermer les yeux. Et si vous nous écoutez sur enregistrement, vous avez entendu des parties dans mon message où le sang a coulé, où il y a eu des jugements sévères. En fait, le Dieu qu'on suit, le Dieu qu'on sert, le Dieu de la Bible, c'est un Dieu qui est saint et qui ne tolère pas le péché. Et c'est un Dieu aussi qui est plein d'amour et qui veut voir chacun d'entre nous être réconcilié avec lui. Dieu n'a pas baissé ses standards, il n'aime pas le péché, il l'haït. Et un jour, il y a un jugement pour chacun de nous. La bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ est venu sur la terre, Dieu dans la personne de Jésus. Il a porté sur lui la punition que méritaient nos péchés. Le sang a encore coulé cette journée-là. Dieu vous aime tellement qu'il s'est laissé punir à votre place pour que vous puissiez être restauré puis accéder à la lumière inaccessible de la présence de Dieu. Si vous mourrez dans l'état où vous êtes, assurez-vous que vous êtes sans péché. Mais vous dites, Jean-Sébastien, c'est impossible que je sois sans péché. Bien, c'est possible que votre péché soit comptabilisé à Jésus-Christ, comme si c'était lui qui avait fait cela, il paye comme si c'était lui qui l'avait fait. Et que sa justice et sa sainteté vous soient offertes comme un cadeau gratuit. C'est la première étape. Pour devenir un héritier, il faut devenir enfant. Pour devenir enfant de Dieu, il faut recevoir Jésus. Jésus a dit, si tu écoutes ma parole, si tu me reçois, Dieu te donne le pouvoir de devenir un enfant de Dieu. Il te rend capable d'avoir part à l'héritage des enfants de Dieu dans la lumière. Mais les ténèbres qui sont en toi, les ténèbres qui sont en moi, m'empêchent d'aller à Dieu. Alors Jésus vient, il les enlève, meurt sur la croix pour toi, vient payer la dette comptabilisée à ton nom et ainsi enlève tes ténèbres, te pardonne complètement. Et comme les fils de Lévi, qui n'étaient pas supposés d'avoir une part, Dieu devient ta part. Puis en plus, il te réserve une place au ciel qu'il veut t'offrir comme un don gratuit. La seule chose que tu as vraiment besoin aujourd'hui de comprendre, c'est que Dieu t'aime éperdument, qu'il est mort sur la croix pour toi, pour passer l'éternité avec toi. Et ce qui t'est offert aujourd'hui, c'est l'annonce de la bonne nouvelle de Jésus qui vient te réconcilier avec Dieu et te donner un nouveau départ. Si tu veux accepter ce cadeau-là, fais cette prière avec nous. Nous, on l'a fait en geste de courtoisie, mais ce n'est pas quelque chose qu'on fait tout le temps. C'est quelque chose qu'on a fait une fois, avec foi. Mais on va le faire en geste de courtoisie avec toi. Je vais inviter les gens à prier, soyez pas gênés, pour conduire les autres dans la prière pour recevoir la vie éternelle. Répétez après moi. Seigneur Jésus, je reconnais que tu es Dieu, que tu es saint et que tu nous aimes. Que tu es venu sur la terre pour mourir à notre place, à ma place. Que tu as été enseveli et que tu es ressuscité le troisième jour pour me donner la vie éternelle. Je le crois et je l'accepte. Viens dans mon cœur et sauve-moi. Donne-moi le Saint-Esprit qui m'a été promis. Amen. Seigneur, je prie que le Saint-Esprit de Dieu puisse venir convaincre l'esprit humain de la personne qu'elle est un enfant de Dieu, qu'elle a reçu la paix avec toi par la croix. Je prie que le Saint-Esprit, qui est le gage de l'héritage futur, vienne complètement convaincre cette personne qu'elle est une héritière et qu'il est un héritier et que cela ne fait nul doute que si elle est un enfant, elle est aussi un héritier. Et qu'elle a reçu le gage de cette promesse-là. Donne-nous du repos dans notre foi, sachant qu'on a reçu le pardon de notre péché. Et aussi, on a reçu le Saint-Esprit qui veut nous conduire dans une marche sainte et produire en nous la vie même de Jésus. Que le voleur ne vole plus, que le menteur dise la vérité. Qu'on vive de plus en plus conformément à l'arbre qui a été planté dans notre cœur et les fruits en soit digne, pour que Jésus soit glorifié et que le témoignage du chrétien puisse vraiment paraître dans ce monde, un monde perdu, un monde qui ne connaît pas. Et si quelqu'un t'a reçu aujourd'hui pour la première fois, il a fait cette prière-là, il a compris qu'est-ce que tu avais fait, sois son héritage, fais-toi connaître à lui, fais-toi connaître à elle. Et je te prie, Seigneur, qu'elle t'aime, qu'il t'aime et te serve avec tout son cœur. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.
Ce message vous a fait du bien? Vous en voulez plus? L'Église Grâce et Vérité vous offre un site web sur lequel vous trouverez des messages en audio, vidéo et bien plus. Merci de nous honorer en les partageant sur les médias sociaux. Vous pouvez aussi laisser vos commentaires sur notre page Facebook ainsi que sur notre site web au www.graceetverite.org.